Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Au sommaire du sous-marin aujourd'hui, le mois de mars, c'est le mois du genre à l'Université d'Angers. Pour l'occasion, vous retrouvez une programmation vaste de conférences, spectacles, ciné-débats et bien plus encore. Le sous-marin est alors ravi de recevoir Maxime Curvers, qui est metteur en scène d'un spectacle interprétant la pièce japonaise traditionnelle Okina. Dans son spectacle, il vient interroger la place de la femme, les stéréotypes de genre dans la culture japonaise, le sacré et le mythe. On est ravi d'être avec vous ce soir, j'espère que vous êtes prêts. Ajustez bien votre gilet de sauvetage, c'est parti, le sous-marin lève les voiles.
18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
À l'occasion du mois du genre, la programmation du quai est riche en spectacles qui viennent interroger sur les stéréotypes. Cette semaine, une représentation a attiré l'attention de la Team Campus. Nous recevons dans le sous-marin ce soir Maxime Curvers pour son spectacle Okina. Bonjour Maxime.
Bonsoir.
Alors Okina, c'est originellement un spectacle japonais tiré de la forme théâtrale du No. Et si la présence des femmes est tout juste tolérée dans ce genre, pour le spectacle Okina, elle est complètement interdite. Ce spectacle, il mêle danse rituelle, cérémonie rurale, mais aussi des rituels shintoïstes et bouddhiques. Mais vous, Maxime, vous avez décidé de casser cet interdit et de faire jouer une femme japonaise, Yuri Itabashi. Comment est-ce que vous utilisez la danse pour sortir de la représentation des stéréotypes du genre?
Donc effectivement, Okina est la pièce que j'ai construite autour de ce no qui porte le même titre et qui est donc le no presque originaire. C'est le no qui ouvrait à l'origine, dès le 15e siècle, toutes les journées de no. Le no se passait comme ça, on allait le voir en tant que spectateur sur toute une journée. Et il y avait une pièce, surnommée même le no qui n'en est pas un, et qui s'appelle toujours Okina, et dont la dramaturgie ne repose pas du tout sur un cadre narratif avec des personnages qui vivent des péripéties, comme c'est le cas d'autres pièces de no, mais elle est entièrement construite autour de trois danses, qui sont trois danses rituelles effectuées par des personnages différents, qui sont d'ailleurs pas vraiment des personnages, mais qui sont plutôt en fait des acteurs, traditionnellement même à l'origine des prêtres, masqués. Et ils portent sur leur visage donc des figures plutôt d'aspiration spirituelle ou divine. Et donc c'est la danse de ces no d'origine, donc du 15e siècle et même d'avant en fait, ça apparaît même dès le 11e siècle. C'est sur ces danses que je me suis proposé de travailler avec cette actrice Yuri Itabashi. Et donc comment j'utilise la danse? Ma question c'est comment quelque chose de ces danses, pourquoi et comment quelque chose de ces danses est refusé à une catégorie de la population, pourquoi toujours encore aujourd'hui, et qu'est-ce que une jeune actrice d'aujourd'hui, du théâtre contemporain, d'avant-garde japonais, peut bien essayer de produire sur scène, alors par la danse, mais pas uniquement, aussi par la parole, pour essayer de rendre à elle-même ce qui lui est culturellement, depuis le 15e siècle, mais toujours encore aujourd'hui, ce qui lui est refusé.
Mais justement, on parle de quelque chose qui culturellement est assez vieux, et ça semble un peu paradoxal de parler de mythe, de sacré, donc qui fait référence à une tradition et en même temps de la volonté de casser ces représentations. Comment est-ce qu'on utilise un peu ce décalage?
Donc en fait, la prescription faite aux femmes de jouer au Okina, elle s'est construite culturellement autour de ce qu'on pourrait nommer comme étant des prescriptions cathartiques relatives aux rituels shintoïstes. Est lié à un concept précis du shintoïste qui est la notion de kegare. Et kegare, en fait, c'est un terme japonais qui est difficilement traductible en français, mais qu'on pourrait essayer de traduire par le mot de souillure. Et cette souillure, c'est une espèce d'état du corps qui intègre en gros les humeurs, le sang, la merde, la pourriture.
Et ça, c'est traditionnellement rattaché à la femme.
Et donc, en fait, les femmes dans le culte shintoïste, de par les règles, sont considérées comme connectées au kegare. Ce qui a produit culturellement leur interdiction de produire ces danses rituelles.
Et justement, donc, comment on passe du sacré à une lutte contre le stéréotype de genre?
Ouais, donc en fait, moi, mon, mon angle d'attaque. Et c'est cet angle que j'ai surtout essayé de transmettre à Yuri. En fait, là, j'ai dû me retrancher derrière l'expérience de Yuri, donc qui est cette comédienne, pour ne pas en fait lui imposer un plan critique ou un plan de critique féministe de la tradition japonaise, etc., à laquelle je suis extérieur. Donc j'ai dû me soumettre ou me retirer derrière la subjectivité de Yuri.
Elle vous a accompagné dans l'écriture ?
Absolument. Le premier stade d'écriture, ça a été de comprendre en fait en quoi cette notion d'interdit culturel, d'interdit théâtral d'abord, puis en fait d'interdit culturel plus large, en quoi ça la concernait elle en tant que jeune actrice. Et donc tout un procédé d'écriture, ça a été d'essayer de trouver ce qui dans sa vie de jeune actrice et plus largement en fait de jeune femme et avant de jeune fille, de jeune adolescente, etc., a pu produire en fait des situations de prescription similaires produites par un surmoi un peu plus général, un surmoi qui englobe l'intégralité de la société japonaise, de sa division du travail, etc.
Mais là, vous avez travaillé donc avec l'actrice qui est japonaise, enfin la danseuse qui est japonaise, et on est quand même en train de parler de sacré, de briser un tabou absolu. Est-ce que votre spectacle, s'il était vu par des Japonais, il serait irrévérencieux, est-ce qu'il serait profanateur ?
Alors, il a été vu par des Japonais.
Okay. D'accord.
Et ce que je sais, c'est... Bon, il a été vu par des Japonais, certains Japonais...
Ils ont dit quoi du... Ils,
qui
quoi,
sont des spécialistes du no aussi. Il a été vu par des personnes spécialisées du no. Donc évidemment qu'il y a une torsion à une règle séculaire, etc. Mais cette règle, en fait, la manière dont elle est formulée par, en tout cas, certains Japonais avec qui j'ai discuté, c'est que Okina est interdit aux femmes, non pas parce que c'est des prescriptions morales, etc., mais parce qu'au final, ça n'a jamais été fait. Donc au final, ce que pose comme hypothèse le spectacle qu'on va jouer après-demain et vendredi, c'est que peut-être le moyen de subvertir cette prescription séculaire, en fait, c'est pas de l'attaquer frontalement et de dire cette prescription est un tabou qu'il faut absolument déconstruire, anéantir, bref. Mais au contraire, il faut travailler à partir de cette impossibilité-là, essayer de chercher les zones, les contours un peu limites de cette impossibilité, à essayer d'atteindre le chemin vers l'incorporation pour laisser la place imaginaire. Et dans le spectacle, en fait, on essaie de... Enfin, Yuri essaye de s'approcher petit à petit de ce que pourrait être une danse d'Okina traditionnelle par qui elle est, c'est-à-dire une jeune femme japonaise.
Mais justement, ça les a pas choqués ?
Ils
non, ont
donc,
pas...
je, donc je, en fait, je, ce que ça a ouvert pour, en tout cas, certaines personnes avec qui j'ai discuté, c'est la possibilité que peut-être, un jour... Ça change. et l'idée que, au final, ce qu'on connaît des prescriptions, peu importe en fait, ou des tabous, de la morale en fait, elle n'existe que dans un point de l'espace et du temps, mais qu'au final, peut-être que ça n'est rien, et que demain ça va changer. Et donc le spectacle, les quelques amis japonais avec qui j'ai discuté traitent un peu de ce biais-là.
Et ils l'ont vu en France, vos amis japonais. Est-ce qu'elle pourrait jouer au Japon ?
Ça, alors il y a une partie a vu une répétition ouverte au Japon, mais le spectacle n'était pas fini et il était précisément pas fini au point qui pouvait être à mon avis le point un peu choquant, c'est-à-dire qui est celui de l'incorporation. Il y a une bascule dans le spectacle où Yuri essaye d'incorporer quelque chose de ces figures d'ordre divin. Donc le public japonais au Japon n'a pas vu ça encore. Est-ce que ça pourrait être... est-ce que ce mouvement-là vers l'incorporation de ces figures théophaniques, en fait, on pense que ce sont des visages, des apparitions divines.
Théophanique,
en fait. C'est l'apparition d'un dieu sur le visage d'un homme.
D'accord.
C'est pas ce qu'on croit, en fait, qu'un dieu apparaît, et ce n'est plus un acteur. C'est presque de l'ordre de la transubstantiation.
Donc c'est le fait d'avoir une femme qui joue un dieu. C'est ça qui choquerait peut-être
Absolument.
D'accord.
Et donc ça, je sais pas comment ça se passera. Comment on l'a pas encore fait au Japon, on va le faire, mais...
Ben, on va revenir un peu plus précisément justement sur votre rencontre avec la danseuse, donc Yuri Itabashi. Vous avez fait venir spécialement une danseuse japonaise pour jouer la scène de le spectacle Okina qui est interdit aux femmes. Est-ce qu'elle a été réticente à jouer ou elle a de suite accepté ?
Alors, elle n'est pas danseuse, elle est actrice.
Actrice.
Est-ce qu'elle a été réticente ? Non. Perplexe peut-être.
Elle a pas mis des conditions comme écrire avec vous.
Non, en fait, ce qui s'est passé réellement, c'est que j'étais il y a quelques années au Japon où je travaillais sur un projet personnel plus large d'anthropologie théâtrale. Donc j'allais voir des pratiques de jeu assez ponctuelles, vernaculaires, parfois amatrices, etc., dans rural, enfin peu importe. Et aussi du coup de no. Et voyant plusieurs pratiques de no, je réalise en allant voir un spectacle que l'acteur principal, l'interprète principal est une femme. Et voyant cette femme jouer à une pièce de no, je réalise que tous les acteurs de no que j'ai vu auparavant étaient des hommes. Donc je décide immédiatement d'essayer de rencontrer cette jeune actrice et je l'interroge sur ce que c'est.
C'était Yuri ?
Non, c'était une autre actrice. Vraiment de no traditionnelle qui était intégrée à une compagnie. Une école de no, école au sens large, c'est-à-dire une école, c'est à la fois une compagnie, une famille.
Et vous l'avez rencontrée et
je l'ai rencontrée, j'ai demandé à discuter avec elle pour essayer de quantifier un peu quelle était la pression sociale qu'elle avait sur les épaules au sein d'un milieu que j'avais, en ayant côtoyé un peu pendant quelques semaines, que j'avais commencé à identifier comme étant patriarcal, un peu féodal dans son organisation, etc. Cette actrice de no me dit que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, et je lui dis mais quand même, t'as le droit de tout faire comme les hommes, ça me semblait étonnant. Elle me dit tout sauf une pièce qui s'appelle Okina. Elle m'explique les raisons pourquoi c'est interdit, parce qu'on passe une heure à essayer d'expliquer dans le spectacle. Et donc je lui propose un peu naïvement que si elle n'a pas le droit de l'incorporer, peut-être on pourrait faire un spectacle, un solo, où elle raconterait au public, donc elle ferait imaginer au public ce spectacle qui lui est refusé. Pourquoi elle n'a pas le droit de le jouer et si elle le jouait, qu'est-ce qu'elle aurait à y jouer ? Je lui propose ça, étonnamment elle accepte, son maître étonnamment accepte également, on commence à répéter, alors j'étais rentré en France, c'était le Covid, on se voyait par visioconférence, etc. Et au bout de quelques séances, son maître annule en me disant que cette jeune actrice décide d'arrêter sa carrière. Donc je suis perdu, je demande à essayer de rencontrer d'autres actrices, et systématiquement tous les maîtres de no à qui j'ai demandé m'ont dit aucune femme, aucune actrice, aucune femme, dans la version la plus trash, ne pourra te parler d'Okina. Donc moi j'ai un projet que j'aimerais faire, qui est de parler de cet interdit, vraiment pour parler d'un interdit de représentation, ce qui me semblait être un enjeu théâtral majeur, mais j'ai plus d'interprète, puisqu'on on leur refuse le droit de le faire. Et c'est en voyant une tournée du metteur en scène d'avant-garde japonais Toshiki Okada à Gennevilliers que je réalise qu'il y a une actrice dans ces spectacles que j'avais déjà vue. Et je vais voir ce spectacle de Toshiki, c'est à Gennevilliers, c'est en 2021, je crois. Et pendant tout ce spectacle, je me dis, c'est pour elle, elle est géniale, c'est une actrice d'avant-garde, contemporaine, donc elle n'a pas d'interdit moral, elle peut tout faire. Et surtout, elle bouge très lentement, et quand elle fait des choses comme ça, très lentes, avec très peu de mouvements, je vois du no du futur, quoi. Et donc, je lui propose.
Demander,
et donc, le lendemain, le lendemain que je vois le spectacle, je lui demande.
Elle a immédiatement accepté. Vous avez du jeu de persuasion.
Elle a quasiment immédiatement accepté, mais en fait, les 15 premiers jours de répétition, ça n'a pas été tant d'écrire un spectacle, de répéter tel mouvement, etc. Ça a été vraiment d'essayer de déterminer qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait de cet interdit, et surtout comment. De ce projet un peu métathéâtral que moi j'avais amorcé, comment il devient le projet de Yuri en fait.
Rapidement, comment est-ce que le spectacle est joué en japonais, comment est-ce qu'on gère la retranscription sans reprendre des stéréotypes de genre? Est-ce qu'il y a un travail là-dessus sur l'interrogation entre japonais et français?
Alors, bon, déjà sur la question du genre en japonais, il y a un problème, puisqu'il n'y a pas de distinction de genre dans la grammaire japonaise.
Il n'y a
pas de féminin et pas de masculin. Donc nous, en français, on est obligé de le faire. Et donc tout l'enjeu, en fait, c'est d'essayer de... En gros, le spectacle, il vient travailler avec une espèce de bascule, hein, même si c'est pas tout à fait une transgression de genre, parce que Yuri continue constamment à parler en son nom. Et d'ailleurs, et ça je pense que c'est en fait directement pour elle subjectivement issu de cette grammaire japonaise qui est agenrée. Le problème d'Okina, en fait, il se pose au-delà de la question du genre. il se pose au-delà de l'assignation au féminin ou masculin, mais en fait, pour Yuri, je crois, c'est ce qu'elle aurait peut-être à en dire si elle parlait à ma place là maintenant, mais il se pose, c'est un problème d'assignation en général, en fait.
C'est assez compliqué quand même. C'est-à-dire que vous avez déjà dit que le théâtre, c'était, vous avez déjà dénoncé l'élitisme du théâtre, donc dans une interview pour le magazine Mouvement, vous avez dit c'est réservé à une élite culturelle et voilà, vous dénoncez ça. Mais si je reprends la présentation du spectacle dont on parle, ça paraît assez dense. C'est-à-dire que c'est un ballet religieux issu du No et dont les danses rituelles empruntent des cérémonies rurales très anciennes d'avant même la création du No au XVe siècle, qui sont liées à des rituels shintoïstes et bouddhiques. C'est assez dense. Est-ce que votre spectacle il reste assez accessible quand même?
Alors le point de départ du spectacle, c'est que Yuri, qui en fait pendant 1h20 tisse comme ça cette espèce de fil, en fait le spectacle c'est son enquête, elle essaie au cours de cette enquête d'essayer de nous raconter comment elle comprend cette prescription, comment elle la comprend, comment elle la vit, comment elle l'incorpore, quelle organicité elle lui donne, etc. Et en fait, ce qu'elle explicite dès le départ, c'est qu'elle-même, au moment où je la rencontre pour lui proposer ce projet, elle raconte cette partie-là, même notre rencontre, elle est complètement extérieure à ce milieu du No. Puisque le théâtre contemporain et le théâtre traditionnel au Japon sont des pratiques.
Donc il y a tout un effort pour le rendre accessible.
Donc en fait, elle-même a dû faire cet effort pour se le rendre accessible à elle-même. Et en fait, le spectacle, c'est le trajet d'elle-même pour se le rendre accessible et nous le rendre accessible à nous. Et en fait, c'est le même mouvement. Donc moi mon parti pris, enfin en tout cas mon postulat, c'est que on est à égalité avec elle en fait. C'est qu'on elle et moi, dans le récit qu'elle en fait, au public, on commence de zéro en termes de connaissances. Et à la fin du spectacle, y compris par l'incorporation, on arrive à percevoir deux, trois idées de ce que peut être un recours au rituel, un recours à quelque chose de... Voilà.
Et Maxime Curvers, donc petite dernière question. Le thème de cette édition du mois du genre, c'est militer. Est-ce que cette pièce, c'est une façon de militer?
Donc, de la même manière que
très rapidement.
Ce sera la même réponse que pour le mot de genre. La question, pour moi, je répondrai oui. Sauf que répondre de manière comme ça, monobloc, oui, c'est absolument s'extraire de la façon dont une actrice japonaise pourrait le penser. Et la question de militer ou de faire un acte oppositionnel à quelque chose est absolument pas pensable.
Sans parler d'opposition, peut-être défendre quelque chose, défendre une vision de la société.
Oui, oui, bah ça, alors dans ce cas, on pourrait dire que la pièce comporte en elle-même une espèce de sens moral de ce que doit être le théâtre et une manière d'être au monde.
Elle porte des valeurs.
Oui, donc on peut dire militer, ouais.
Bah merci à Maxime Curvès pour être venu dans le sous-marin.
Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.